Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell et aujourd'hui on va parler du sommet antisécuritaire du 9-3 avec des personnes du groupe Clash de la Fédération anarchiste.
Sometimes, and sometimes they leak out, as it were, they use their powers and so forth and play their own head games on other people, which we call war. And so I could dedicate this one to all the soldiers that are fighting in Birmingham, all the skinheads, all the, all the soldiers fighting in Bournemouth, London, oh yes, all the soldiers fighting in Vietnam, I promise you that, so many words.
La prison a pour but de faire croire aux gens du dehors qu'ils sont libres.
Aujourd'hui encore, la tension est montée d'un cran. Les policiers ont reçu de nouvelles consignes.
Il est maintenant temps en France de sévir.
Venez débattre avec Maurice Rachfus, Jean-Marc Reynaud, Mathieu Rigouste, Mauvaises Intentions et le MIB le 21 novembre au sommet antisécuritaire du 9-3. À la Bourse du Travail de Saint-Denis, métro Port de Paris, ligne 13, de 17h30 à 22h30. Fédération anarchiste.
Donc vous êtes avec les amis d'Orwell et vous venez d'entendre le jingle donc, du sommet antisécuritaire du 9-3, donc, qui est aujourd'hui. Donc nous avons comme invité donc, Cécile Gilles Thibault qui organise donc, ce sommet. Donc bonjour, vous faites partie du Clash, donc du groupe. Peut-être déjà que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Clash.
Bah alors le Clash, c'est un groupe qui est fédéré à la Fédération anarchiste, un groupe de militants. On peut dire en fait ce que ça veut dire, le Clash.
Ouais.
Bah, Cécile, tu vas me dire ce que ça veut dire.
Collectif libertaire, anti-militariste, anti-religieux, anti-capitaliste, anti-révisionniste.
Antifasciste.
Antifasciste, antisexiste, anti-homophobe.
Voilà ce qu'il y a 6 A dans l'écriture du Clash. Donc c'est un groupe qui existe depuis longtemps, le Clash ?
C'est un groupe qui a une dizaine d'années, qui a été fondé il y a une dizaine d'années. Et depuis, ça se poursuit avec pas mal de brassages en fait, entre les différents membres. mais ça reste un groupe très dynamique.
Donc le Clash, est-ce que c'est sa première action sur le sécuritaire ou est-ce qu'auparavant déjà vous avez traité de ce sujet
hein? Bah, pas vraiment depuis que j'en fais partie, ça fait à peu près 3 ans, mais bon, un des fondateurs qui est Patrick Schindler est un ancien de Ralfront et je pense qu'il s'est quand même pas mal mobilisé sur tout ce qui est antisécuritaire, enfin justement jusqu'à présent quoi.
Voilà, il a été particulièrement impliqué. Il a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, même si ce n'était pas la spécificité initiale du groupe en particulier. Il y a eu beaucoup d'actions anti-religieuses et anti-patriarcales, notamment.
Et comment il est né alors ce groupe ? Enfin, on peut expliquer un peu aux auditeurs de Radio, enfin, en tout cas des amis de Rouel, parce que c'est la première fois qu'on reçoit des personnes de la Fédération anarchiste. Donc c'est l'occasion aussi de parler un peu de la Fédération anarchiste et comment ça fonctionne. En fait, au sein de la Fédération anarchiste, il y a des groupes, c'est ça qui fonctionne
de façon autonome.
Voilà, c'est ça. Et vous, donc, vous avez une spécificité. C'est un groupe qui fonctionne peut-être, je ne sais pas comment.
Bah, de toute façon, je pense que chaque groupe est déterminé par la spécificité des individus qui la composent, en fait. Hein, donc, c'est en fonction de. C'est des groupes affinitaires. Donc, c'est des gens qui, à un moment, décident de se regrouper pour avoir une action commune. Donc, après, ça dépend. Le groupe va ressembler aux gens qui composent le groupe, en fait.
D'accord. Ah.
Je tenais justement, effectivement, à souligner que le Clash, effectivement, du fait qu'il était un groupe affinitaire, en fait, il a été composé de diverses personnes qui avaient différentes sensibilités, d'autres qui étaient plus touchées par tout ce qui était répression, enfin prison, enfin ce qui est mon cas, d'autres plus
toi, sur fais partie de Rallymur aussi, de l'émission Rallymur.
Ouais, tout à fait, ouais. D'autres qui étaient plus touchés par tout ce qui était lié justement au patriarcat, à l'antisexisme, à ce genre de choses, sur d'autres sujets. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment un domaine d'action particulier comme peuvent avoir certains autres groupes qui seraient plutôt de tendance anarcho-syndicaliste, comme par exemple le groupe Pierre Bénard qui fait une émission aussi sur Radio Libertaire. Et du coup, on peut toucher un peu de toutes sortes de domaines en fait, dans nos actions et dans nos revendications.
Alors, dans le domaine du sécuritaire, est-ce que vous avez déjà mené des actions ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ?
Alors, moi, étant relativement nouveau, je n'ai pas eu connaissance d'une spécificité sécuritaire. Mais étant donné que, au dernier, la Fédération anarchiste, qui est finalement un outil pour donner des moyens au groupe, décide lors d'un congrès de différentes motions. Et en l'occurrence, là, il y a une motion sur le sécuritaire qui a été décidée à ce moment-là.
C'est-à-dire, tu veux développer un petit peu
C'est donc particulièrement une dénonciation de toutes les pratiques antiterroristes étatiques actuellement, qui sont donc depuis l'affaire, dont l'affaire la plus visible a été l'affaire Coupa. Mais il y a tout ce qui se passe derrière qu'on voit par exemple dans les médias. Et ça, actuellement, c'est... Après cette motion, on a décidé un petit peu de se lancer là-dessus.
Parce que jusqu'ici, la Fédération anarchiste, est-ce qu'elle avait déjà organisé des sommets sur le sécuritaire ou
Là, pour l'instant, dans mon souvenir, en fait, elle a surtout participé à... à mettre en place des manifestations. Il y en a eu une fin janvier, il y en a eu une au mois de juin aussi, justement suite à l'affaire Coupa et à la terrorisation de tout le mouvement social et puis
la criminalisation des luttes,
oui. Et donc il y avait eu deux manifs qui étaient assez importantes et qui avaient été effectivement plus ou moins orchestrées par la Fédération anarchiste à ce moment-là.
Et personnellement, alors vous, individuellement, est-ce qu'il y a des choses qui vous touchent plus personnellement, dont vous avez envie de débattre et puis de... Enfin, parce que le sécuritaire, effectivement, c'est assez large, ça touche plein de domaines. Qu'est-ce qui vous a amené personnellement
Si même personnellement, on n'est pas impliqué... on n'a pas de problème justement judiciaire éventuellement. De toute façon, dans tous les cas, on peut être impliqué du jour au lendemain. Il suffit qu'on ait une connaissance qui organise des actions un petit peu dissidentes ou quoi que ce soit. On peut être impliqué d'une façon ou d'une autre avec justement les lois, une réédition des lois scélérates d'il y a de la fin du 19e siècle. Donc c'est encore une réédition de ce genre de processus qui se développe actuellement, et c'est intéressant justement de dénoncer tout ça pour mobiliser les gens et lutter contre la criminalisation, tout simplement.
Ce qui est assez hallucinant, c'est de voir justement que la façon, à chaque fois qu'il y a une manifestation qui est sur ce thème-là, qui est pour protester contre ces lois scélérates, contre le sécuritaire, etc., à chaque fois, c'est des manifestations qui se finissent mal, ou qui même commencent mal. Je pense notamment à la manifestation qui a eu lieu en janvier de cette année, à Barbès, où la manifestation n'a même pas pu avoir lieu, tellement dès que ça commence à toucher à ce sujet-là.
Tu peux rappeler exactement quel était l'objet de cette manifestation à Barbès ?
Bah, c'était pour demander la libération des prévenus, des différents prisonniers politiques, en fait. Donc il y avait entre autres l'affaire de Tarnac, et puis Isa, Bruno, Juan, il y avait tous les. Pas mal de.
Tu peux rappeler, on a déjà invité notamment Farid, enfin d'autres personnes de ce collectif. Tu peux rappeler ce qui s'est passé, hein.
Donc c'était. Alors je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que c'était au moment de l'incendie du CRA de Vincennes.
Oui.
Voilà, et donc évidemment, ça, les pouvoirs publics, ça ne leur avait pas plu du tout. Ils cherchaient des coupables, quoi. Clairement, il fallait des boucs émissaires, parce que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc ils ont, un peu comme à chaque fois, quoi, ils ont chopé des militants, et puis ils ont essayé de leur coller des trucs sur le dos pour les faire plonger, quoi. C'est un peu la technique à laquelle on commence à être habitué de leur part. Et c'est proprement inacceptable, hein. On peut pas, nous, en tant que militants, on peut pas laisser passer ça, que n'importe quel militant qui se trouve à un moment donné sur une manif ou sur un événement risque d'être pris pour bouc émissaire et se fasse charger par les pouvoirs publics parce qu'ils ont besoin de, ils ont besoin d'un coupable, quoi. Ça, c'est pas possible qu'on emprisonne des gens pour leurs idées politiques et pour leur engagement dans leur volonté de faire un monde meilleur. Enfin, c'est joli, mais c'est
voilà, quoi. Monde meilleur.
Voilà, c'est ils défendent une cause juste, et c'est devenu un crime de défendre une cause juste, et voilà, là on en arrive à un point où il y a pas une seule manif qui parle de ce sujet-là qui se termine pas dans la violence de la part des forces répressives de l'État. Donc il faut non seulement pas baisser les bras et continuer à faire ces manifestations, mais il faut, du coup, et je pense que c'est de là que part cette initiative d'organiser ce sommet, il faut qu'on en parle, qu'on s'organise face à cette situation qui est quand même relativement nouvelle. Il faut tous ensemble qu'on réfléchisse à maintenant comment on fait pour continuer à militer, pour continuer à nos activités en limitant au maximum la casse, quoi.
Ouais, parce que ce qui s'était passé, c'est donc Yvan et Bruno avaient été arrêtés donc sur la route de la manifestation contre le centre de rétention de Vincennes, avec des fumigènes artisanaux et des crèves-pneus. Donc ils ont été enfermés pour ça, en fait. Et leur affaire a rejoint une autre affaire, donc celle de Farid et Isa, qui, donc on avait reçu Farid il y a quelques mois. Eux ont été arrêtés alors qu'ils roulaient en voiture, qu'ils avaient une carte établissement pénitentiaire pour mineurs. Et puis, voilà, ils avaient aussi des fumigènes, enfin du matériel, même pas, du chlorate de soude. Donc eux ont tout de suite été arrêtés dans le cadre de la loi antiterroriste. Et ensuite, ils ont fait un lien entre ces deux affaires, quoi. Et donc toi, en fait, c'est lors de cette manifestation à Barbès que tu as eu des problèmes avec la police, c'est ça ? Ou lors d'une autre manifestation ?
Oui, voilà, ouais. Oui, non, voilà. C'était celle-là où je me suis fait embarquer. Enfin, j'ai fait partie de toutes les personnes qui se sont fait embarquer à ce moment-là.
Et vous étiez combien
Bah, il y a quasiment toute la manifestation, tous les manifestants qui étaient dans le cortège qui se sont fait arrêter, donc ils se sont retrouvés à un commissariat. Et puis il y a eu du coup une espèce de double manif, c'est-à-dire qu'il y a le cortège qui s'est fait encercler par la police anti-émeute dans les premières minutes du rassemblement, de manière assez violente, hein, c'est façon cow-boy ils l'ont fait, là, c'était vraiment impressionnant, quoi, même pour les gens du quartier.
C'était une manif déclarée ou
Alors, non, bon, elle n'était pas déclarée. Voilà, on a oublié de demander l'autorisation à l'État de protester contre l'État.
D'accord. On n'avait pas la permission, voilà.
On n'avait pas la permission.
C'est ce qui a justifié l'arrestation.
Donc c'est ce qui a justifié l'arrêt immédiat de la manifestation avant qu'elle ait commencé et l'interpellation de tout le cortège. Sauf que là où ils ont fait, je pense, une erreur qu'ils ne recommettront pas, c'est qu'ils ont agi tellement vite qu'ils n'ont pas laissé le temps aux manifestants de se regrouper. Comme à chaque manif, quand tu as un rancard à 3h30, il y a encore des manifestants qui continuent à arriver, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toute une partie des manifestants qui se sont retrouvés coupés, qui n'ont pas pu rentrer dans le cortège, mais qui du coup se sont attroupés autour et qui évidemment n'allaient pas laisser tomber leurs copains. Donc ils sont restés et ça a créé une tension fatalement puisque finalement les flics qui avaient encerclé la manif se sont retrouvés eux-mêmes encerclés en fait. Donc ça a créé une situation un peu de siège qui était un peu délicate. Il y avait une tension qui était vraiment palpable et à partir de là, non seulement ils ont cherché à, donc déjà ils ont embarqué tous les manifestants qui étaient dans le cortège.
Vous étiez combien là?
On était plus d'une centaine
à être embarqués.
Ils ont vraiment embarqué tout azimut. Et puis il y a eu parmi les manifestants donc, qui étaient extérieurs au cortège des arrestations à l'aveugle en fait. Ils ont décidé d'embarquer le maximum de gens possible. Et une fois qu'ils ont embarqué ces gens-là, ils ont fait des... Bon, on peut le dire, on est sur Radio Libertaire, les flics ont menti, ils ont fait des fausses déclarations, c'est-à-dire qu'ils ont chargé, ils se sont mis à quatre pour dire, bon alors lui on va charger un tel, ils se sont mis d'accord pour faire à quatre le même témoignage, et ainsi de suite pour toutes les personnes qu'ils avaient embarquées.
Donc c'est quel genre de témoignages, enfin, de quoi ont été accusés les manifestants alors?
Alors les chefs d'accusation, c'était... Vous allez voir, c'est ridicule au possible. Hein. Attroupement armé.
Armé de quoi?
On était principalement armé de nos idées, mais c'est vrai que...
ça peut faire mal des fois, tu sais.
Ça peut faire mal. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que n'importe quoi, qu'une arme par destination, ça peut être n'importe quoi que tu as dans les poches. Quoi. Ça peut être, voilà, tu prends ton stylo, ça peut être une arme par destination. Donc a fortiori, une canette, une bouteille en verre, quoi que ce soit, ça peut être une arme de par destination. Donc à partir du moment où tu te radines sur une manif avec une canette, t'es armé. Donc ça, c'est, voilà, ça fait partie des choses dont il faut qu'on parle et qu'il faut qu'on parle ensemble. Et c'est pour ça que c'est important ce meeting, c'est que là, on se retrouve quand même face dans une situation où la criminalisation de la lutte arrive à un stade qui est surréaliste, quoi. Donc, je finis. Alors, attroupement armé, jet de projectiles sur les forces de l'ordre, refus de dispersion. Alors, le refus de dispersion, c'est très drôle parce que voilà, il n'était pas possible de se disperser vu qu'on était encerclé par les flics. Et que même à un moment, les manifestants ont essayé de se disperser, c'est-à-dire qu'il y a une personne de la RATP qui a ouvert les grilles, qui bloquait en partie les manifestants, donc pour pouvoir libérer les gens, pour qu'ils puissent s'échapper, quoi. Ils voulaient vraiment se disperser. Mmh. Et la personne en question s'est fait proprement matraquer, gazer, lyncher par les CRS, mais direct, quoi. Alors qu'elle était là juste pour... Elle a fait ça, elle faisait même pas partie des manifestants, c'était juste pour aider, quoi. Elle voyait qu'il y avait des gens qui étaient en difficulté et elle s'en est pris plein la gueule. Donc il y avait ça, puis après, bon, bah, classique, ça aussi, il faudra qu'on en parle. Classique, à chaque fois que tu te fais arrêter, maintenant, t'es accusé d'outrage et rébellion. Ça, c'est devenu... c'est une tradition, quoi. Hein, c'est le truc, ça se discute même plus. C'est par principe, une fois que tu t'arrêtes, c'est ou t'as outrage et rébellion.
C'est la franchise.
Voilà, c'est juste... oui, c'est puis bon, faut voir aussi qu'il y a justement dans ce système de en ce qui concerne l'outrage et la rébellion, les flics en fait touchent des primes quand ils sont victimes d'un outrage ou d'une rébellion ou quoi que ce soit, d'une désobéissance de la part de la personne qu'ils arrêtent, tout de suite ils ont droit à une prime, quoi. comme si voilà, comme si c'était pas leur leur boulot. Enfin, c'est comme si c'était pas normal. Voilà, bon, ils ont des flingues, ils ont des matraques, mais ils sont traumatisés quand on leur balance un gros mot dans la figure, quoi. C'est donc voilà, ils touchent des indemnités à chaque fois que voilà, ça met du beurre dans les épinards, on va dire. Voilà, ça fait un petit revenu d'appoint par principe, ils rajoutent outrage et rébellion histoire de voir s'il n'y a pas moyen de grappiller quelques centaines d'euros en plus.
Voilà, vous avez été mis en garde à vue.
Donc voilà, c'est pour une grosse garde à vue, on a pris plus de 48 heures de garde.
C'était pas dans le cadre de la loi antiterroriste, hein, votre
Non, là c'était pas loin, mais là ils ont pas pu, ils avaient vraiment pas grand chose contre nous, quoi. Voire rien. Pour la plupart d'entre nous, ils avaient que dalle, quoi. À part leur faux témoignage. Un flic est assermenté, donc par définition, le flic. Et je commence à parler beaucoup, là, on est trois normalement.
enfin, on termine cette histoire et puis après.
Bon, voilà, le flic est assermenté, donc par définition, il ment pas. Donc il peut dire n'importe quoi, tu peux pas l'accuser de mensonge, ou alors c'est un truc super grave, quoi. Donc il peut dire tout ce qu'il veut, de toute façon, ce sera considéré comme la vérité. Surtout quand ils sont quatre en plus à s'être mis d'accord pour dire la même chose. Alors là, c'est juste imparable, tu peux pas te défendre, quoi.
Et vous avez été jugé tout de suite ou
Non, ça a pris du temps, mais il y a eu plusieurs reports.
Donc c'était quelle date ça, la manif?
Donc ça, c'était le 24 janvier à Barbès.
D'accord. Et donc depuis, le procès a eu lieu ou
Donc le procès a eu lieu le 5 octobre.
Le 5 octobre, et donc le jugement a été rendu, hein.
Le jugement a été rendu tout de suite après.
Vous êtes combien alors à avoir été
On était 8.
Donc les autres ont été relâchés, c'est ça?
On était 8 à être arrêtés, dans le cadre de cette affaire-là.
Tu parlais de centaines de...
Oui, parce qu'il y avait les manifestants, et puis il y avait ceux qui étaient autour. Donc les manifestants étaient dans un commissariat, ils ont été... Je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il n'y a pas eu de jugement, en fait. C'était juste une garde à vue ou un contrôle d'identité, mais je crois pas qu'il n'y a pas eu de suite judiciaire, mais il faut m'arrêter si j'ai des conneries. Non, bon, bah voilà, en fait...
Et pourquoi, alors vous, qu'est-ce que vous... Les 8, là, pourquoi vous avez eu un procès, enfin, par rapport aux autres? Qu'est-ce qui justifiait la particularité de votre cas, quoi?
Ouais, c'est joli. Non, parce que comme il y avait des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, ça c'est... Les jets de projectiles ne venaient pas des manifestants du cortège, puisque de toute façon ils étaient encerclés, donc ils pouvaient plus bouger, donc ça venait de l'extérieur. Ceux qui étaient arrêtés à l'extérieur de la manif, le but c'était de leur coller ça sur le dos, quoi.
D'accord. Okay.
Donc c'était pas les mêmes faits qui étaient reprochés. Donc dans ce cadre-là, on était 8. Il y en a un qui a pas été jugé en même temps. Et d'ailleurs, je vous encourage à suivre de très près cette affaire, parce que lui, il s'est fait carrément lyncher par les flics dans le camion. Ils étaient 5 ou 6 flics, et ils lui mettaient des baffes à tour de rôle. Et du coup, il a eu le tympan percé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en garde à vue, il se pinçait le nez comme ça, il soufflait, il y avait de l'air qui sortait par son oreille. Il a perdu l'ouïe d'une oreille, quoi. Donc lui, il n'a pas été jugé en même temps que nous, parce que évidemment, pour se couvrir, ils vont essayer de le charger au maximum. Il a un petit peu disparu de la circulation, mais on essaye de renouer le lien avec lui, parce que voilà, quoi, il faut pas le lâcher. Sinon, sur les 7 autres, il y en a 2 qui ont été relaxés. Si ça vous intéresse, je vous raconterai des petits trucs un peu marrants, parce que c'était vraiment, dans les témoignages des flics, c'était vraiment... C'était plus qu'incohérent, quoi. C'était surréaliste. Et puis sinon, il y en a 5 autres qui ont été condamnés à 2 mois de sursis chacun, plus un qui a eu un contrôle judiciaire, et puis des dommages et intérêts à verser aux flics, des sommes astronomiques. Moi-même, j'ai 800 euros à filer aux flics.
Et vous avez fait appel ou
Donc on a décidé de pas faire appel, non, parce que ça fait un an que ça traîne, cette histoire, et on en a marre et on avait envie de passer à autre chose. Et puis de toute façon, remettre en cause la parole des flics, c'est juste impossible, quoi. Puis voilà, la justice, ça se passe pas dans un tribunal, ça se passera dans la rue. Et ça se passera aussi le 21 novembre à la Bourse du Travail de Saint-Denis.
On va faire une pause musicale et puis on reprend. We'll be right back.
L'homme n'est pas qu'une marchandise, non, non. C'est aussi une vitrine, un panneau sur pattes, surtout transparent. Pour le peuple, la police est sous la peau, les bus. L'octopus, le pouvoir, tous nous croquer sur le pouce. Que les noyaux durs ramollissent, tombent comme des fruits mûrs. Le pouvoir repose sur des fissures. Les chouettes sont à l'affût, des fois que la foule crie au fou. La dominance tire à vue, la non-vivance n'évolue. Quand voulant triompher, au silence de fond répond un rafle qui rappelle le bien que ça fait d'aller au bout. Le quadrillage a ses marges, et dans ses marges il y a des pages. On apprend vite à faire le tri quand on pratique l'esprit large. Se concentrer dans ce contexte précisément confus. Rester confiant en conscience, sans passer par confesse. Dans la dérive d'un pacte rompu, les atomes laissés libres à l'explosion des cellules composent des corps dans les décombres. Muet comme un arbre, sourd comme le bruit, aveugle comme l'oracle, un frère ça tombe pas comme la nuit. Tu la boucle du débâcle, le clou du spectacle, c'est quand l'ennemi s'auto-détruit. Échappé du laboratoire, pas un plastique égaré par l'industrie sécuritaire. Électron libre à trajectoire aléatoire, inadapté, notoire, encore anti-autoritaire. Fille patriote introuvable comme le sommeil de l'insomniaque. Esprit volutément fertile et volontiers paranoïaque. Une volonté à servir volatile comme l'ammoniaque. Laisse majesté de la reine des fromages et des somnifères. La liberté n'est pas dans les métropoles, go cobaye et bobolaco. Cultive l'amour d'entreprise, les deux doigts dans la prise. La ville est un champ d'OGM, dans les campagnes y'a plus piaf et bien plus place. Y'a la tradition du corbeau. En gros, pour sortir des sentiers battus du monde en battant, mieux vaut avoir le croc. Si le bateau court, y'aura personne sur la berge à le regarder couler. Le mieux c'est donc qu'il coule pas, quoi bon pleurer si les larmes coulent pas. On colmate quoi, à coup de mais à coule pas. Face à la violence de l'inertie, on peut attendre du ciel ou de quelques messieurs hautes sphériques qui viennent éclaircir. On peut aussi saisir au vol un maximum de maintenant et d'ici. On peut aussi décider d'atteindre l'objectif réel, confusément précis. Dans la foule comme dans le désert, un solide insulaire, un seul litre et des heures et des heures. En de grande comme le weather, la clarté dans la confusion, la bagongue est tout gazeux.
La sécurité est la plus grande ennemie des mortels. Venez débattre avec Maurice Rachfus, Jean-Marc Reynaud, Mathieu Rigouste, Mauvaises Intentions et le mouvement de l'immigration et des banlieues le 21 novembre au sommet antisécuritaire du 9-3, à la Bourse du Travail de Saint-Denis, métro Porte de Paris, ligne 13, de 17h30 à 22h30. Fédération anarchiste.
Vous êtes toujours avec les amis d'Orwell et aujourd'hui on a comme invité des membres du groupe Clash de la Fédération anarchiste. Donc on est avec Cécile, Gilles et Thibault. Donc Gilles venait de nous raconter donc ce qui lui est arrivé à Barbès, comment elle a été arrêtée et puis ensuite condamnée. Vous avez aussi écouté, donc j'ai pas dit d'ailleurs que vous avez écouté Insolite. Et juste après, c'était un des jingles donc, qui annonce le sommet antisécuritaire du 9-3, puisqu'on est là pour parler de ça. Thibaut, tu nous disais que toi aussi, en fait, tu as vécu aussi les problèmes du sécuritaire personnellement.
Voilà, exactement. Alors, c'est pas à la même échelle que Gilles. Mais c'était lors d'une donc des actions de propagande qu'on effectue régulièrement dans le cadre de la militance quoi. Et donc là, c'était à l'occasion d'une... On profitait, donc il y avait une... Il y avait une manifestation donc pour le droit des femmes le samedi. Et donc la veille, on avait prévu justement sur le parcours de la ligne 2 du métro d'en profiter pour faire une opération de propagande antipatriarcale. Donc ça consistait à faire des pochoirs à l'entrée des stations de métro, donc par terre. Et donc on a effectué ça. Mais alors c'est toujours problématique parce que de faire ça discrètement, parce qu'il y a forcément du monde, même si on faisait ça plus ou moins discrètement. Bon, on s'est fait arrêter. On est tombé sur les flics qui nous ont tout de suite embarqués. Donc c'est pas grand chose. C'est eux appellent ça un délit de dégradation de biens publics. Donc nous on fait ça par terre sur le macadam. C'est là on faisait ça sur des marches. Marche de métro, c'est acte extrêmement, extrêmement dramatique. Et donc j'étais avec un camarade, et pour ça, on a passé 18 heures en garde à vue pour du pochoir sur Macadam. C'est typiquement. Derrière les conséquences, on n'a pas eu beaucoup de conséquences. Bon, il y a eu une plainte de la RATP, ça, c'était pas. Là, n'était pas le souci. C'est que vraiment, il y a eu une tentative d'intimidation extrêmement forte de toute dissidence, quoi. C'est là le souci principal, quoi. Il y a plus de demi-mesures. C'est extrêmement extrêmement sévère, extrêmement on cherche à intimider au maximum les gens.
Finalement, pour être lâché, c'est ça.
Oui, bien sûr. Ouais. Derrière, c'était de toute façon, il y avait rien. On avait même pas d'armes. On s'est fait arrêter sans.
Avec les pochoirs.
Voilà, c'est ça. Il y a eu juste ça. On avait rien du tout. On l'a joué profil bas, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est juste 18 heures de garde à vue pour un truc pareil. C'est complètement aberrant, quoi. C'est vraiment, on cherche à au maximum casser les gens. Donc on imagine que pour des choses moins anodines, ça prend tout de suite des dimensions complètement, complètement aberrantes, hein, comme Gilles.
Et vous n'avez pas eu de prélèvement ADN ? Ni l'un ni l'autre, il n'y a pas eu de demande
Non.
Non.
Pas pour.
Et Gilles ?
Moi, je suis pas fier parce que j'ai fait le con, en fait. Moi, je suis fumeur et au bout de 48 heures de garde à vue, j'étais en manque. Donc, à un moment, au moment de faire ma déclaration, le flic m'a proposé une cigarette. Et j'ai dit oui, j'ai pas pensé. J'avais vraiment besoin de fumer. Et j'ai pas pensé à ça.
Et donc, ils ont prélevé.
Donc, si je suis le seul à qui ils ont pas demandé, c'est précisément parce que ils sont pas emmerdés à me demander.
En fait.
Ah, mais ils ont pas besoin de t'informer.
Donc t'es dans le fichier sans le savoir, en fait, d'une certaine manière.
Oui.
Mmh.
Oui.
Alors que les autres, on leur a demandé. Hein.
Les autres, oui, il me semble, oui.
Mmh. Et ils ont accepté, enfin.
Je dis une bêtise, non on leur a pas demandé, non.
D'accord,
non.
Ouais, donc c'est pas.
Mais en fait, je pense que pour pas mal, c'est déjà fait, en fait.
D'accord, ouais.
Pour beaucoup, c'est déjà fait.
Donc, on est là donc, pour parler du sommet anti-sécuritaire du 9-3. Vous pouvez développer un petit peu, on a entendu le jingle.
On a un track, donc je vais le lire, enfin, tout simplement. Donc, surveillance et répression constituent les deux faces d'une même pièce sécuritaire. Retracer l'évolution des représentations de l'ennemi intérieur dans la pensée d'État depuis les années 1960 est indispensable pour comprendre comment, des territoires colonisés d'hier aux quartiers populaires d'aujourd'hui, la Ve République a régénéré un modèle d'encadrement fondé sur la désignation d'un bouc émissaire socio-ethnique. L'ordre n'est pas au service des citoyens, mais sert essentiellement à les encadrer, les surveiller, les contrôler. L'ordre public, c'est l'ordre brutal mis au service du pouvoir. La police a toujours été l'élément indispensable d'une politique de rejet et d'exclusion, permettant de masquer les difficultés économiques et sociales. 60 000 caméras pour 60 millions de personnes en France, grosso modo. En 2011, l'objectif est de tripler le nombre de caméras à l'échelle nationale et de le quadrupler pour la capitale avec le plan 1000 caméras pour Paris, sans compter les 9500 de la RATP et de la SNCF, dont la police pourrait disposer en temps réel. 21 communes seront d'ailleurs récompensées pour leurs efforts de surveillance, 1 million d'euros à se partager. Le business du sécuritaire se développe au point que Bouygues te loge où que tu ailles, particulier, entreprise, prison. Une chose est sûre, le secteur sécuritaire, police, armée, secteur privé, ne connaît pas la crise, levier économique de la croissance. En 2008, nous approchions les 600 000 gardes à vue, soit près de 1% de la population française. En fait, j'ai le chiffre, je crois que c'est 577 000 gardes à vue.
571
000. Je vais chercher. Ah bah c'est juste là. Donc, ouais, non, si, c'était 577 816 gardes à vue donc, qui ont lieu en, en 2008. Donc aussi, il faut dire qu'il y a aussi les poursuivis en justice. Il y a eu 1 172 000 personnes poursuivies en justice donc, pour 2008. Donc en France, les prisons françaises comptent maintenant 68 000 détenus, souffrant chaque jour de l'enfermement et de la maltraitance, autant physique que psychologique. Je rappelle qu'il y a quand même eu 112 morts par suicide et morts suspectes cette année. Et on n'est pas encore à la fin de l'année. Donc, six millions d'immigrés sont les plus exposés au contrôle de police, garde à vue, condamnation, bavure et les traitements réservés aux sans-papiers rappellent les sombres heures de l'occupation. Tous les citoyens sont présumés innocents en droit, mais la réalité montre qu'ils sont considérés comme a priori coupables, surtout s'ils n'ont pas d'amis bien placés. Le fichage massif de la population n'est pas anodin. Derrière une façade démocratique, le totalitarisme avance à grands pas. Les lois sécuritaires se succèdent régulièrement. Rétention de sûreté, prévention de la délinquance, nouvelles lois sur la récidive et les mesures d'exception sous prétexte de lutte contre le terrorisme deviennent une réalité quotidienne pérenne. La maxime « réfléchir, c'est commencer à désobéir » qui correspond bien à l'armée et aux services de police peut également s'appliquer aux citoyens et citoyennes lambda. Nous devons nous organiser pour rester vigilantes et vigilants et résister. Il est donc naturel pour la Fédération anarchiste d'être systématiquement auprès de ceux qui sont ou seront discriminés par les lois d'exception issues de la violence étatique, totalitaire et capitaliste. De prendre systématiquement la défense et d'être aux côtés des victimes et potentielles victimes de la violence étatique, donc totalitaire et ou capitaliste. Ne vous laissez pas endormir par une criminalisation progressive des individus et des mouvements sociaux, car demain vous pourrez bien être considéré comme terroriste par un État et des lois qui sont soi-disant se préoccupent de votre sécurité. Donc retrouvez-nous le 21 novembre 2009 de 17h30 à 22h30 à la Bourse du Travail de Saint-Denis pour en débattre donc avec Maurice Rachfus, Jean-Marc Reynaud, Mathieu Rigouste, le collectif Mauvaises Intentions et le mouvement Immigration des banlieues.
Alors, est-ce que vous pouvez présenter un peu les invités ?
Alors, on va commencer donc par Jean-Marc Reynaud, non ? Vous avez commencé par
donc Jean-Marc Reynaud, en fait, qui est un militant de la Fédération anarchiste, donc qui est sur l'île de Léron et qui avait entre autres fondé avec sa compagne l'école, enfin un centre éducatif libertaire Bonaventure.
Sur l'île de Léron.
Sur l'île de Léron, ouais. Donc il y a quelques années, en fait, ils ont accueilli un enfant sans papier de 3 ans, qui était en fait l'enfant de Mickaël Albizou, dit Hansa, et de sa compagne Soledad Iparaguirre, donc deux militants clandestins de l'ETA. Donc ils l'ont scolarisé, enfin, et bon, ben, grâce à l'aide aussi, un petit peu de... en fait, de l'inspection académique de Rennes, sur demande de la police de l'air et des frontières, donc... Il y a une circulaire, un courrier qui a été renvoyé donc au directeur et directrice d'école pour retrouver la présence d'un enfant sans mentionner le motif de la recherche. Bien sûr, un directeur a répondu. Et c'est ainsi qu'un enfant de sans-papiers, donc le fameux gamin de 3 ans, s'est retrouvé en centre de rétention. Et donc tous les problèmes qui ont suivi par rapport à cette histoire.
Tout seul pour...
Tout seul. Oui, puisque ses parents étaient en prison, justement, c'est pour ça qu'ils l'avaient pris à leur charge.
C'était quand ça,
C'était en 2004. Et donc, ils ont sorti un bouquin, et justement, par rapport à cette expérience et par rapport à la répression politique, je pensais qu'il était judicieux de l'inviter et de parler justement de ça.
Et lui, fait partie du collectif Mauvaises Intentions ?
Jean-Marc Reynaud, pas du tout.
Non, d'accord, je croyais que c'était.
Alors, pas du tout.
D'accord.
La Fédération anarchiste, oui.
D'accord. Il y aura qui du collectif Mauvaises Intentions ? Parce qu'en fait, le collectif Mauvaises Intentions, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure. Farid, Isa, c'est ça, Bruno, Yvan, c'est ça en fait.
Là, pour l'instant, je ne pourrais pas te répondre parce que la personne qui s'est occupée de les inviter ne m'a pas donné ce détail. Donc, pour l'instant, je ne sais pas qui vient.
D'accord.
ensuite, donc, Mathieu Rigouste, qui...
Donc Mathieu Rigouze, bah, c'était par rapport à son livre, principalement, enfin, L'ennemi intérieur, donc, que j'ai trouvé très bien personnellement, et que j'ai, pour une approche un peu sociologique et historique de tout ce qui est terrorisme d'État, en fait, je pensais qu'il était quand même le bienvenu pour faire un exposé là-dessus.
Et Maurice Rachfus, qui est quand même bien connu dans les... qui a écrit énormément de bouquins.
Là, il sera là en tant qu'observatoire des libertés publiques, en fait. Parce que c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses. Il est présent sur beaucoup de luttes.
Et... donc, c'est-à-dire que l'Observatoire des libertés publiques donc, publie un bulletin que fait la police qui recense les bavures policières, c'est ça?
Dis-moi.
On a fait le tour des invités. Hein.
Donc, il y avait aussi, bah, effectivement, pour animer les débats, parce que bon, les trois premiers, c'était effectivement un peu plus, enfin, entre guillemets, magistraux, et donc, mais j'espère qu'ils resteront aussi pour les débats. Et justement, enfin, il nous paraissait important que quand même on se resitue un peu dans le présent et puis dans les luttes actuelles. Donc, c'était effectivement Mouvement pour l'immigration des banlieues et puis le collectif Mauvaises Intentions qui vont nous parler de leurs projets, qui vont nous parler de leurs différentes actions, enfin... et qui sont vraiment là pour effectivement animer le débat qui se déroulera après l'intervention des trois premiers invités. À savoir aussi que après ces débats, il y aura un buffet en fait qui est fait justement pour que les gens puissent après continuer à discuter entre eux. On espère que enfin on a invité pas mal de collectifs et d'orgas, j'espère qu'elles seront présentes pour tenir plutôt des points info et justement avoir une discussion un peu plus informelle. Avec les gens qui viendront au débat, enfin, toi, aux spectateurs qui seront là. Ça nous paraissait aussi assez important à signaler.
On se passe un petit morceau de musique.
Mille fois plus froid que le Mistral s'est abattu sur le sud dans le nouveau triangle des Bermudes. Des phénomènes étranges ont été observés. La haine augmente vitesse grand V au bord de la Méditerranée. Activité paranormale, X-Files envoie le FBI. Normal, ils sont les mieux placés pour ce travail. L'agent Mulder enquête, cherche et trouve une faille. S'introduit au cœur de la secte appelée Front National. Leur étendard arbore la flamme de l'enfer. La bannière tricolore pèse sur l'atmosphère. Mulder envoie son rapport, la situation est critique. Trois villes déjà collaborent avec les forces maléfiques. La menace avance, ne vois-tu pas que la menace avance? Ne sens-tu pas que la menace avance? Ne vois-tu pas que la menace avance, 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 avance? Glacial s'est abattu sur le sud de la France. La balance électorale a désigné l'intolérance. Je pense que les droits de l'homme se retournent dans leur tombe à l'idée que la fraternité n'est pas la même pour tout le monde. Il est temps maintenant de prendre conscience que tous les jours petit à petit la menace avance, profitant d'un terrain propice à son établissement. La menace avance au cœur du gouvernement et tous ces gens ignorants qui se sentent intelligents et qui ramènent leur grande gueule en disant mais disant.
Écoutez, moi je ne suis pas raciste, mais...
Mais quoi, ce mais on dit, trop long sur ta pensée, man, tu es raciste en vérité, mais tu n'oses pas te l'avouer. N'ayons pas peur des mots, man, tu es facho. Le bruit et l'odeur de l'étranger te font froid dans le dos et la menace avance. Ne vois-tu pas que la menace avance? Ne sens-tu pas que la menace avance? Ne vois-tu pas que la menace avance, 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 avance? L'oiseau fait son nid, petit à petit, il nous envahit. Petit à petit, le vautour fait son nid. Petit à petit, il s'installe dans nos mairies, profitant d'un terrain propice à son établissement. La menace avance lentement mais sûrement. Il est temps maintenant de crier urgence avant que le phénomène ne prenne trop d'importance. Car leur putain de parti se répand comme une maladie contagieuse et obtient des pourcents dans des villes plus que douteuses.
C'est un fait, ils sont là. Mais si on reste les bras croisés, jamais ça ne va changer, c'est évident. L'histoire nous l'a déjà montré auparavant. Du temps où Vichy rimait avec nazi, alors évitons le drame avant qu'il ne soit trop tard. Éteignons la flamme avant que l'incendie ne se déclare. La jeunesse emmerde le Front National. Il y aura toujours des pompiers tant qu'il y aura des pyromanes. La menace avance. Ne vois-tu pas que la menace avance? Ne sens-tu pas que la menace avance? Ne vois-tu pas que la menace avance, 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 avance?
Présumé innocent, présumé coupable. Venez débattre avec Maurice Rachfus, Mathieu Rigouste, Jean-Marc Reynaud, le mouvement de l'immigration et des banlieues et mauvaises intentions, le 21 novembre au sommet antisécuritaire du 9-3 à la Bourse du Travail de Saint-Denis, métro Porte de Paris, ligne 13, de 17h30 à 22h30, Fédération anarchiste.
Vous êtes toujours avec les amis d'Orwell, donc on est avec, maintenant on n'est plus qu'avec Gilles et Thibault, puisque Cécile a dû partir, donc qui font partie du groupe de la fédération anarchiste Clash, et qui organise donc ce dont vous venez d'entendre parler, donc le sommet antisécuritaire du 9-3. Alors, est-ce que vous pouvez, donc vous organisez ce sommet antisécuritaire, comment vous pouvez expliquer personnellement cette politique sécuritaire?
Alors moi je crois qu'en fait ça fait partie de la nature de l'État, et en étudiant un petit peu l'histoire de la formation des États, on peut démasquer leur vraie nature. On peut prendre comme exemple, puisqu'on vit en France, on peut prendre l'exemple français. L'État français est né de la volonté d'un bandit qui s'appelait Clovis. C'est-à-dire que c'était une période où les gens en fait venaient d'apprendre à cultiver la terre et à travailler en commun pour le bien de tous. Il y avait ce qu'on appelait des chevaliers qui, jusqu'au XVIIIe siècle, n'avaient pas du tout la connotation chevaleresque qu'on a aujourd'hui. Ça s'est venu avec les romantiques. Mais à la base, un chevalier, c'est un bandit. C'est un mec qui ne travaille pas, c'est un mec qui ne cultive pas la terre, qui ne produit rien, mais qui a un cheval et une arme, et au lieu de faire partie de la vie sociale, il va de village en village pour piller les paysans, violer les femmes, buter les mecs et s'approprier les richesses qu'ils ont produites. Et il se trouve qu'il y a eu un mec dans l'histoire, un de ces chevaliers justement, donc en fait c'est une forme de racket, hein, qui à un moment a organisé son racket, a levé une armée, et pour s'assurer que ce racket puisse s'étendre sur une surface suffisamment vaste pour que ça soit intéressant, a créé l'État. Donc l'État, en fait, à la base, c'est rien d'autre qu'une la volonté de domination d'un homme sur la masse, ou d'une minorité sur la masse. Donc c'est déjà à la base, la naissance de l'État est violente. On retrouve exactement ce même processus dans la formation de tous les États du monde. Hein. Je pourrais vous parler de Jules César, de Gengis Khan en Mongolie, qui est quand même un des exemples les plus parlants. C'est toujours cette notion de violence et de coercition et de domination, de cette volonté de dominer les autres, en fait. Il y a ça, il y a aussi le fait que de tout temps les États se sont formés et maintenus par la guerre. C'est-à-dire que soit c'était dans le but de s'approprier, d'envahir un peuple et de le maintenir sous sa domination. Donc dans ce cas-là, on organise un État, on lève une armée, ou alors c'est pour se défendre d'un agresseur. Par exemple, les invasions barbares, où vous aviez des paysans qui venaient justement se mettre dans l'ombre de ces chevaliers qui étaient leurs ennemis, mais quand il y avait des barbares qui les envahissaient, ils étaient bien contents d'avoir ce chevalier qui avait une arme et qui savait se battre pour les protéger. Donc tout ça, en fait, c'est basé sur la violence, sur l'utilisation des armes, sur la domination de l'autre. Donc il n'y a rien à attendre d'égalitaire de la part de l'État, puisqu'il s'est formé par la violence. Il n'existe que pour lui-même, c'est-à-dire que pour assurer sa propre survie, et il le fait par la violence. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il a le monopole de la violence légitime, de la violence légale, pardon, mais pas légitime, surtout pas, comme il a le monopole du vol légal, c'est-à-dire l'impôt, qui est rien d'autre qu'un racket, un racket organisé. C'est une mafia, en fait. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas les autres mafias, parce que c'est quoi une mafia aujourd'hui ? C'est un État dans l'État. Donc ça, c'est carrément insupportable pour ceux qui sont à la tête de l'État. Donc moi, je pense qu'il y a en fait une évolution dans l'humanité qui a permis justement à l'être humain de s'élever au-dessus des autres espèces, parce qu'il a réussi à pratiquer encore plus que les autres espèces la mutualité, l'entraide. Parce qu'à la base, l'être humain, c'est quand même un animal qui est pas bien costaud, qui a pas de griffes, qui a pas de crocs, qui a pas des gros muscles, parce qu'il sait pas voler, il a pas de branchies. Enfin voilà, on n'était pas doué par la nature à la base physiquement. On avait toutes les chances de se faire décimer par les dinosaures ou je sais pas quelle grosse bestiole il pouvait exister à l'époque. Mais toujours est-il que l'être humain, en fait, le progrès humain tend vers la mutualisation, vers l'égalité et vers l'harmonie, parce que voilà, les gens cherchent à vivre en harmonie. Et malheureusement, comme le disait Darwin, l'évolution humaine ne se fait pas de manière uniforme chez tous les individus. Et moi, je vois dans ces gens qui n'ont pas justement cet instinct de l'entraide et de l'égalité, mais qui ont plus un instinct de domination qu'ils ne savent pas contrôler, je les vois comme des gens qui juste n'ont pas évolué autant que les autres, aussi rapidement que les autres. Quelque part, on peut les voir comme des handicapés, comme un meurtrier ou un violeur pédophile qu'on voudrait mettre en prison. Et nous, on dit non, on veut pas de prison, parce que il faut justement, il faut les traiter comme des gens qui sont juste un peu sous-développés. Bon, bah, pareil pour un chef d'État qui n'est rien d'autre que le chef des bandits, il faut le voir comme un handicapé, quoi. Un mec qui a malheureusement pas aussi bien évolué que les autres et qui, du coup, freine le progrès de l'humanité.
Et toi, Thibaut, est-ce que t'as quelque chose à rajouter?
Alors, ouais, c'est... Ok, après cet exposé historique, un gouvernement, ça s'occupe de gouverner. Et pour ça, donc, ça doit quand même harmoniser, ça doit quand même se débrouiller pour que le peuple qu'il a qu'il domine, finalement, en quelque sorte, qu'il domine, reste, soit suffisamment et suffisamment de ressources pour ne pas être facilement contrôlable. Par exemple, ce qu'on voit actuellement, c'est tout à fait le contraire. En l'occurrence, il y a des problèmes économiques et sociaux tellement importants que le gouvernement ne veut pas répondre à ces problèmes-là, ces inégalités, parce que ces inégalités, en fait, c'est criant dans les banlieues. C'est l'exemple le plus frappant. C'est pourquoi le MIB viendra. Donc, il ne veut pas. Donc le gouvernement ne veut pas répondre à ces inégalités. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il désigne un bouc émissaire en disant « Voici, c'est eux le problème et on doit absolument se démerder pour les maintenir sous les... comment dire ? Les cadrer. » Donc on va mettre en place une politique sécuritaire et on va aussi également, vu que ce n'est pas vrai ce qu'il raconte. C'est pas le bouc émissaire, il faut le construire aussi. Il faut aussi criminaliser les banlieues, c'est-à-dire désigner eux sont la source des problèmes, et inventer des faits ou majorer l'impact des faits. Donc c'est pour ça qu'on va avoir les médias qui vont rentrer en jeu, qui vont cibler particulièrement tous les faits divers, les petites choses anodines qui finalement font partie de la vie. Et on va comme ça, au fur et à mesure, un petit peu endormir les gens et leur imposer de plus en plus de mesures afin que, par exemple, les caméras de surveillance, Et toutes les caméras de surveillance, le fichage, les contrôles, toute la panoplie sécuritaire afin de pouvoir de plus en plus contrôler la population, mais de façon justifiée. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement inadmissible. Donc, rendez-vous le 21 novembre pour qu'on en discute plus précisément. Donc,
à la Bourse du Travail de Saint-Denis.
Oui, bien sûr, à la Bourse du Travail, si vous ne l'aviez pas compris.
De 17h30 à 22h30. Dans les quelques minutes qui nous restent, je vais parler donc de l'Université populaire de Saint-Denis, puisque les Amis d'Orwell anime un cycle sur la frénésie sécuritaire. Donc ça a commencé jeudi 5 novembre avec le délit d'outrage et comme invité Jean-Jacques Reboux. Donc le jeudi 12 novembre, on a comme invité Noé Leblanc, qui a écrit un article dans Le Monde diplomatique sur la vidéosurveillance sous l'œil myope des caméras. Donc ça sera l'occasion de parler de l'efficacité de la vidéosurveillance et des profits, enfin de savoir en tout cas à qui profite la vidéosurveillance. Jeudi 19 novembre, donc, on aura comme invité Anastasia Tsoukala, qui est juriste et criminologue, maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'Université de Paris 11, et qui est rédactrice en chef associée de la revue Culture et Conflits. Donc voilà, donc elle nous parlera, elle, donc, des comportements face à la surveillance. Donc voilà. Et enfin, jeudi 26 novembre, on recevra pièces et main-d'œuvre, donc, c'est-à-dire PMO, pour ceux qui connaissent plus facilement sous ce terme-là. Il y a un site, hein, pièces et main-d'œuvre. C'est un collectif grenoblois qui s'est notamment mobilisé contre les nanotechnologies. Donc, ils nous parleront de la société de contrôle vers un nouveau totalitarisme, point d'interrogation. Donc voilà, bah, c'était les Amis d'Orwell. Donc je remercie donc les membres du Clash d'être venus donc nous parler de leur sommet antisécuritaire du 9-3.
Merci à toi de nous avoir invités.
Voilà, et donc on se retrouve dans 15 jours. Donc je vous rappelle que toutes les émissions des Amis d'Orwell, vous pouvez les écouter sur le site souriez.info.
Les cris des chiens hurlent à la ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Y'a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y'a pas de pays, si tu le veux, prends le mien.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand ils se croient français. Ces sans-papiers
qui vont bientôt partir
vers leur pays les chiens.
On a tout pris, chez eux y'a plus rien.
De rétention, cale de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins.
J'en ai fait 100, j'en ai fait un chemin de l'identité, l'identité, l'idée titan,
l'identité d'idée
à la ronde. Et dans ce flot d'univérien, j'aurais plus de nom, j'aurais plus rien.
Dis-moi c'est quand,
dis-moi c'est quand
que tu reviens.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand il se croit français.
Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est quand il se croit français. Avec tous ces chantiers
et tous ces foulitiers,
ils visent pas que les lapins.
C'est plus du gros sel, c'est des tomahawks. Des missiles solaires ou des scuds. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front. Paris sera beau, on chantera les oiseaux. Paris sera beau, si les oiseaux me nantent. Paris sera beau, car les oiseaux, allez, Paris sera beau.